Vous écoutez RTL.
Il y a tout de suite les sociétés secrètes sur RTL. Bonjour Vincent Mottet, vous êtes journaliste.
Bonjour.
Vous venez d'enquêter pendant plusieurs mois sur le vrai rôle des sociétés secrètes dans l'histoire. Alors elles font fantasmer beaucoup de monde, notamment ceux que l'on appelle les complotistes. Est-ce que vous pouvez déjà, tiens, on va faire une petite liste, nous égrener quelques noms de sociétés secrètes les plus connues?
Elles sont innombrables. Il en existe à toutes les époques, sous toutes les latitudes et dans tous les domaines. On en trouve trace dès la plus haute antiquité, donc avec les cultes à mystère qui viendraient d'Égypte.
Il y a les Illuminati, par exemple, dont on a souvent entendu parler.
Oui, bien sûr, c'est un peu les superstars de la conspiration, surtout depuis le best-seller de Dan Brown, Ange et démon.
C'est quoi le point commun de toutes ces sociétés secrètes? Le secret, vous allez me répondre.
Oui, déjà d'une part, mais c'est un secret, je dirais volontaire, puisqu'elles recherchent l'opacité. Mais pas forcément pour se mettre à couvert de la loi comme des contrebandiers, par exemple, qui pourraient être considérés comme une société secrète. Non, les sociétés secrètes recherchent cette opacité parce qu'elle va permettre l'initiation, les rituels. Et le secret, c'est déjà un contrat en soi. Si je vous confie un secret, on est liés l'un et l'autre.
N'hésitez pas. Illuminati,
surtout devant tous les auditeurs.
C'est ça. Société Tulée, on entre dans les arcanes des sociétés secrètes sur RTL. A tout de suite, les curieux.
Vous êtes bien sur RTL. RTL, première radio de France. RTL.
La curiosité est un vilain défaut. Un défaut, un vilain défaut.
I hate California. It's crowded and dead.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
We're beautiful like diamonds in the sky.
Jusqu'à 15h sur RTL.
La curiosité avec le journaliste Vincent Mottet qui nous dévoile l'histoire et le vrai pouvoir des sociétés secrètes sur RTL. Par exemple, celle qui est la plus souvent citée, les Illuminati, on en a parlé à un instant. Et la notoriété de cette secte ou société secrète, elle est gonflée notamment par des chanteurs, des chanteuses comme Rihanna, Lady Gaga, dont on vient d'entendre certains extraits de chansons. Alors les Illuminati, on va consacrer quelques minutes à cette société secrète. Quel pouvoir lui prête-t-on encore aujourd'hui? C'est quoi le fantasme?
On lui prête un pouvoir démesuré et bien sûr on prête qu'aux riches, puisque les Illuminati sont considérés comme une des premières sociétés secrètes modernes qui a eu une influence dans l'histoire. Alors cette influence elle est justement démesurée, puisqu'on parlait de Dan Brown qui l'étire jusqu'à la Renaissance et nos jours. Alors or, en réalité,
une espèce d'ordre qui tirerait les ficelles de la marche du monde, c'est
oui,
ça?
Oui, en réalité il n'existe qu'une dizaine d'années à la fin du 18e siècle. Donc c'est un peu les superstars de la conspiration aujourd'hui, parce qu'on est sorti de l'histoire, on est dans la théorie. Et alors là, évidemment, la théorie, on peut dire ce qu'on veut.
Elle naît donc à cette époque, vous nous l'avez dit, cette société secrète. Mais qui la fonde? Qui est à sa tête? Qu'est-ce qui motive sa création?
Alors, elle est fondée en 1776 à Ingolstadt, qui est une petite ville de Bavière, par un certain Adam Weishaupt, qui est professeur de droit canon. Et il a maille à partir avec les jésuites. Il était élevé par les jésuites, mais garde une grande rancœur contre les jésuites. Et il est passionné par ce qu'on appelle les idées nouvelles à l'école, qui viennent principalement de France, pendant les Lumières. Il est passionné par Rousseau, Voltaire, Montesquieu. Et bon, il est en Bavière, donc il est quand même un état très conservateur, qui est resté un bastion de la contre-réforme. Donc il va devoir un petit peu se mettre à l'abri pour diffuser tout ça, et il va créer une première société secrète qui ne s'appelle pas. Cette société secrète ne s'appelle pas les Illuminati à l'origine, mais l'ordre des perfectibilistes.
Donc c'est quoi, des gens qui veulent être parfaits?
Disons qui entendent perfectionner la société en perfectionnant l'homme, en créant un homme nouveau, régénéré, dans son esprit débarrassé des superstitions, c'est-à-dire de la religion, pour être précis.
Et ensuite il crée l'ordre des Illuminés, c'est ça?
Alors il change de nom, tout simplement. Il est assez malin, puisque il y a deux mouvances en fait dans ces lumières. En Allemagne c'est l'Aufklärung. Il y a une mouvance très rationaliste, donc c'est la raison, c'est l'idée du progrès social notamment. Et il y a une mouvance plus occultiste qui est l'illuminisme. Donc lui, il va avoir l'intelligence de rebaptiser la société secrète Illuminati. Donc c'est l'ordre des Illuminés, en latin Illuminati, pour séduire un peu les deux mouvances.
Et en fait, cet ordre, il va durer quoi,
à peine une décennie.
À peine une décennie. Et alors, on est obligé de passer quelques étapes, mais là où cette histoire nous passionne, et vous le racontez dans Société secrète, leur véritable rôle dans l'histoire, publié aux éditions First, c'est que
Il y a une influence des Illuminati sur la Révolution française. Grâce à qui ou par qui cette influence est arrivée ?
Alors, une influence, c'est là où il faut...
Modérer les mots.
J'irais rentrer dans les nuances. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'ils ont inspiré, d'une certaine manière, la Révolution française, mais comme ont pu l'inspirer des penseurs des Lumières, comme Rousseau, Voltaire, voilà, la Révolution, c'est la faute à Rousseau, c'est la faute à Voltaire, mais la question est de savoir s'ils l'ont organisé. Or, l'ordre est dissous en 1785, et bon, la Révolution démarre 4 ans plus tard. Mais les hommes n'ont pas disparu, les serments ne sont pas rompus, les idées se diffusent.
Donc, Par qui, si on doit citer un seul nom, c'est Mirabeau, peut-être ?
Alors, Mirabeau, on n'a pas la preuve qu'il appartenait à l'ordre des Illuminés de Bavière, mais il y a tout un faisceau d'indices qui peuvent donner à réfléchir. On pense qu'il était initié sous le nom de code de Léonidas, parce qu'il faut savoir que les Illuminés, comme d'autres sociétés secrètes, fonctionnaient avec des mots de passe, des noms de code. Alors, c'est le Nomen Mysticum, c'est un nom de guerre qui permet justement d'un peu de crypter les correspondances. Mmh. Et à l'image des noms, on a aussi des patronymes, on a aussi les noms de villes, comme Munich qui devient Athènes, la Bavière qui devient la Grèce, et ça permet de faire passer des messages plus secrètement.
Allez, on va continuer de découvrir les sociétés secrètes grâce à vous. D'après vous, quel est le point commun entre George Bush, père et fils, John Kerry, le patron de FedEx, et celui du magazine Times ? Eh bien, ils sont tous membres de la même société secrète, les Skull and Bones.
RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, de 14h à 15h.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL Matin, Yves Calvi.
Cher Michel, bonjour, on vous retrouve avec grand plaisir.
Est-ce que vous imaginez, Yves, qu'il y a en France 700 000 personnes qui sont diabétiques et qui ne le savent pas ?
Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Bougez, dans l'idéal, je le rappelle, une demi-heure par jour minimum. Vous réduisez les sucres qui se cachent dans les sodas. C'est curieux, j'ai comme l'impression parfois de me répéter un peu. Mais il paraît que la pédagogie, c'est l'art de la répétition.
Je vous le confirme, à demain, Michel Simès.
Retrouvez les conseils santé et bien-être de Michel Simès chaque matin à 8h15 sur RTL. RTL. Première radio de France.
La curiosité est un vilain défaut.
Chaque année, dans quelques-unes des plus grandes universités, un petit nombre de l'élite des étudiants est choisi pour rejoindre des sociétés secrètes.
RTL.
On sait de 4 présidents des États-Unis au moins qu'ils en ont été membres.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La plus puissante de ces sociétés a toujours été les Skull.
Jusqu'à 15h sur RTL.
Les sociétés secrètes au menu de la curiosité sur RTL. Alors après les Illuminati, on va maintenant dévoiler les rituels des Skull and Bones. Vincent Mottez, c'est une société secrète américaine. Que veut dire son nom ?
Alors oui, c'est une société secrète américaine et... En l'occurrence, c'est une fraternité universitaire. Son nom signifie littéralement crâne et os, ossement. Elle est connue aussi sous l'appellation de fraternité de la mort.
C'est le logo un peu de la.
C'est aussi
il y a un crâne et des os.
C'est le logo qui surmonte un nombre assez récurrent et énigmatique dans l'univers de Skull and Bones, qui est le nombre 322. Alors on ne sait pas exactement, c'est un peu le mystère non élucidé à ce jour. Il y a plusieurs pistes. Alors, j'allais dire officiellement, mais Skull and Bones ne parle pas officiellement. Enfin, en tout cas, il laisse courir le bruit que 322 serait une référence à Démosthène, donc un orateur de l'Antiquité, qui est mort en 322 avant Jésus-Christ, et que l'ordre vénère pour son éloquence. Mais bon, ça paraît un petit peu fumeux. Je pense que c'est un peu pour endormir tout le monde.
Alors donc, cette société secrète, ou cette fraternité, les Skull and Bones, ils s'épanouissent, si j'ai bien compris, dans l'université de Yale, dans le Connecticut, est l'une des universités d'élite américaines. Et alors, ça rejoint ce qu'on vient d'entendre, ce serait l'antichambre du pouvoir. Et il y a effectivement plusieurs anciens présidents américains qui en ont été membres, qui en sont membres, c'est ça ?
Ah oui, alors on en recense 3, à commencer par William Howard Taft, qui est le fils du fondateur, du cofondateur d'Alfonso Taft, l'autre était William Huntington Russell, et les deux autres sont Bush père et fils. Et à noter que le grand-père, donc Prescott Bush, était lui-même un membre des Skull and Bones, un bonesman comme on dit. Donc c'est à croire qu'on est bonesman de père en fils.
Vincent Mottez, vous publiez Société secrète, leur véritable histoire, c'est aux éditions First, et on y découvre notamment les rituels des Skull and Bones. Comment sont initiés les nouveaux élus ?
Alors le rituel, il a vraisemblablement évolué depuis le 19e siècle. Mmh. On sait, par des confidences, des témoignages, notamment recueillis par la journaliste Alexandra Robbins. Alors bon, il y a un mélange de simulacres, d'exécutions, de confessions intimes dans un cercueil. Tout ça se passe dans un bâtiment donc, qui appartient à la confrérie.
Qu'on appelle le tombeau. Le tombeau. Alors, mais voilà. Est-ce qu'on sait à quoi ça ressemble à l'intérieur de ce tombeau ? Il y a eu des témoignages ?
Alors, déjà, d'extérieur, ça ressemble c'est un peu néoclassique. Ça ressemble à une espèce de temple, alors sans fenêtre, bien sûr, avec une épaisse porte. Et à l'intérieur, oui, on sait à quoi ça ressemble, puisqu'il y a eu donc, des témoignages, comme je disais, mais aussi des étudiants qui, dans les années 2000, se sont amusés mais en tout cas, ils sont entrés par effraction. Et on a même des photos, on peut voir ça sur Internet. C'est un décor assez macabre, avec la présence récurrente de la faucheuse, la Camarde.
Mais quand on est président américain, comme Bush, père et fils, on a le droit d'être dans une société secrète ? On n'a pas un devoir de transparence ?
Ils l'ont été étudiants, ils le sont toute leur vie ? Parce que c'est ça aussi la question.
Mais je dirais qu'ils le sont surtout après, puisque cette fraternité devient un vaste réseau. Puisqu'on a quand même... comme vous le disiez tout à l'heure, la crème de l'establishment américain qui vient faire son droit à Yale, et parmi les étudiants, je dirais, les plus qui ont le réseau le plus intéressant, ils se retrouvent dans la fraternité. Donc on imagine, si vous voulez, depuis le début, depuis 1832, on imagine qu'il y a à peu près 2500 membres et actuellement 800 vivants. Donc ça laisse imaginer du carnet d'adresses. On a même tendance à dire que finalement le diplôme en soi de Yale ne vaut rien par rapport à l'initiation chez Skull and Bones.
Mais ça veut dire que finalement peu d'étudiants sont choisis.
C'est
une micro-élite.
C'est une quinzaine, alors 15 précisément. On appelle ça un club, donc une promotion, et chaque année.
Les sociétés secrètes sont dans l'œil de notre curiosité sur RTL. À venir, la société Thule qui aurait joué un rôle essentiel dans l'ascension du parti nazi en Allemagne. Restez avec nous les curieux.
La curiosité est un vilain défaut.
Munich, printemps 1919. Rudolf von Sebotendorf, un Allemand se disant noble, fonde la société secrète de Thule.
RTL.
Thule est la mythique patrie d'origine des hyperboréens aries. Les rejoindront Hitler, Dietrich Eckart, qui aura ce commentaire sur Hitler. Il dansera, mais c'est moi qui ai commandé la musique.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Elles alimentent les fantasmes des complotistes, mais quel est le vrai pouvoir des sociétés secrètes ? On répond à cette question sur RTL avec notre invité, le journaliste Vincent Mottez. Donc on a parlé des Illuminati, ça n'existait qu'une dizaine d'années dans les années 1770, et pourtant elle fait fantasmer encore aujourd'hui. On a parlé des Skull and Bones, où là on est dans une fraternité
universelle. And pas Bones,
c'est autre chose. Université américaine, une fraternité qui a un vrai pouvoir, puisque le carnet d'adresses de ses membres continue de... Je crois que j'ai perdu Sidonie Bennec.
Mais avec on va créer lapsus, une société avec Thomas, les Skull and Bones.
Et donc, on va maintenant parler de la société de Thule. Alors là, on est en Allemagne, on l'a entendu, on est au début du XXe siècle, 1919. Qui est le fondateur ?
Alors, c'est un certain Rudolf von Sebotendorf, qui en fait est un faux aristocrate, puisque son vrai nom est Rudolf Glauer. C'est un drôle d'oiseau, si on peut dire, parce qu'il a un parcours assez singulier. Il a un peu roulé sa bosse dans le monde entier. Il était chercheur d'or en Australie, entrepreneur en Turquie. Il est passionné par les derviches Bektachi. Il est initié dans la franc-maçonnerie. Enfin, vraiment, c'est un cursus un peu particulier. Et c'est lui qui fonde, donc au lendemain de la Première Guerre mondiale, la société Thule.
Et alors, est-ce que elle nous intéresse parce qu'elle va inspirer ou jouer un rôle essentiel, en tout cas dans la construction de l'idéologie nazie ? C'est une loge clairement antisémite, c'est une société antisémite dès sa création ?
Alors oui, farouchement antisémite même, puisque elle considère les juifs comme des forces non allemandes, et qu'elle identifie à la République des Conseils de Bavière, puisque donc à ce moment-là, la situation politique, c'est la République des Conseils de Bavière, et dans le reste du pays, la République de Weimar. Donc c'est donc, la République des Conseils qui est d'inspiration communiste. Voilà. Et la société Thule va considérer que les meneurs, les principaux bénéficiaires de la Révolution et les meneurs de la République des Conseils sont des Juifs, donc ils vont appeler au meurtre et ils vont être entendus.
Vincent Mottès, dans votre livre qui révèle le véritable rôle des sociétés secrètes dans l'histoire, on découvre le QG de la société Thulé. Où est-il et quel est son emblème ?
Alors, il est situé dans l'une des salles de l'hôtel des Quatre Saisons, qui est au cœur de Munich, et son emblème, c'est la croix de Wotan, donc qui est une variante de la swastika, c'est-à-dire plus connue comme la croix gammée. Elle est légèrement arrondie et elle tourne dans l'autre sens.
Il y a d'autres symboles aussi qu'on va retrouver dans le parti nazi qui viennent de cette société Thulé.
Oui, on peut penser au salut, donc Sieg Heil, qui en fait vient de la société Thulé, qui à l'origine était Heil und Sieg, donc le salut et la victoire, qui deviendra le salut et la victoire. Et
est-ce qu'on retrouve ensuite dans ceux qui vont devenir les cadres du parti nazi d'anciens ou des membres de la société Thulé?
Oui, alors on retrouve déjà il faut préciser que parmi les fondateurs du DAP, donc du parti ouvrier allemand, ouais, on a quand même quatre personnages, dont deux sont des anciens, enfin sont des membres à part entière de la société Thulé, et les deux autres gravitent autour, sont des invités. Et pour répondre à votre question, parmi les cadres, on peut citer Rudolf Hess, donc qui est vraiment l'adjoint d'Hitler, on a Hans Frank, le bourreau de la Pologne, on a Alfred Rosenberg, bon, on n'est pas exactement sûr qu'il était membre à part entière, mais en tout cas il fait partie des invités, enfin de ceux qui fréquentent l'ordre, et on en a d'autres, on a le maire de Munich, on a des parlementaires.
Et Adolf Hitler, en a-t-il été membre?
Alors, on n'a pas la preuve. Il est mentionné par Sebonendorf dans son livre parmi les invités, mais est-ce qu'il a vraiment poussé la porte de l'hôtel des Quatre Saisons? Rien n'est moins sûr. Il faut savoir que même si on a beaucoup glosé sur la passion pour l'occultisme d'Hitler, tout ça est quand même à relativiser, puisqu'il se méfie beaucoup aussi de ce qu'il appelle ses scoliastes dans Mein Kampf. Il ne parle même pas d'ailleurs de la société Thulé. Il est un peu échaudé par l'expérience du terrain, et pour lui c'est les résultats concrets qui comptent.
D'un mot, est-ce qu'il va se détacher de la société Thulé quand il arrivera au pouvoir, Hitler?
Alors, détacher, ça sous-entendrait qu'il en ait fait partie, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'influence de la société secrète va décroître à mesure que le parti, donc qui deviendra le parti national-socialiste, va monter. On a une société secrète qui devient désuète, puisque aujourd'hui, le combat se fait avec les masses, il ne se fait plus à couvert dans l'ombre. Mmh. Il s'agit d'avoir un outil puissant pour convaincre des foules et pas rester dans l'ombre.
Merci beaucoup Vincent Mottès. Société secrète, leur véritable rôle dans l'histoire, publié chez First Edition dans une collection Les Dossiers interdits de l'histoire, dirigée par l'ami Pierre Baron, que l'on salue.